Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon vendredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit un correspondant parlementaire, vadrouilleur de Parlement, comme je les appelle, Marc-André Gagnon, qui nous parle des complications de la campagne de vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Il se penche ensuite sur un de ces dossiers dont il est expert, le troisième lien, le tunnel Québec-Lévis, que le gouvernement tente désespérément de verdir. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
La rencontre Nadeau-Robitaille.
Mais bon vendredi, Rémi Nadeau.
Bonjour, Antoine.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour Le Journal et Le Journal. Parlons des libéraux. C'est un congrès crucial pour Dominique Anglade cette fin de semaine et on y sera.
Oui, ça se déroule à Québec. On est content quand c'est en présence. On va pouvoir voir les militants parler avec les gens, humer l'humeur.
Et c'est vraiment. Je pensais que t'allais dire, on va pouvoir voir le variant se promener, le nouveau variant. Excuse mon cynisme.
Écoute, c'est vraiment comme le moment, ça passe ou ça casse, je pense, pour Dominique Anglade. Parce que il y a beaucoup de scepticisme. Écoute, même à l'intérieur de sa propre équipe de députés, et aussi chez des militants libéraux pur jus, là, qu'on pourrait appeler, des anciens élus, qui se demandent un peu, mais où elle s'en va avec ce virage à gauche? Et là, ben c'est l'occasion pour elle de se montrer charmante, de séduire les militants et tout le monde pour que sa gang, finalement, se rallie complètement et prennent confiance à l'approche de la campagne électorale. Parce que si c'est l'inverse qui se produit, ça n'arrive pas comme à convaincre, être convaincante, et que là, les gens se raclent la gorge et roulent des yeux, là, ça sera très long. Et écoute, puis je pense vraiment pas qu'il y a une menace, là, qu'il y ait un putsch ou qu'on cherche à la faire sauter.
Quand même, Rémi, moi, tout à l'heure, j'ai su qu'il y avait une stratégie de plancher pour empêcher un vote de confiance, que quelqu'un demande un vote de confiance. Donc, on pense que c'est peu probable, mais que ça pourrait arriver. Donc, on ne prend pas de chance, on ne prend pas de risque.
Oui, c'est ça. Ils ne veulent pas prendre de risque. Et notre collègue Nicolas Lachance a tenu le détail, les éléments forts du discours qui sera prononcé vendredi soir,
ouais.
Et c'est ça qui va comme donner le coup d'envoi. Elle va clamer qu'elle représente les valeurs libérales et que les valeurs libérales, c'est les grands projets sociaux aussi et économiques. Mais tu sais, le virage à gauche, on l'a constaté dans les derniers mois, dans plein de prises de position. Tu sais, ils se sont prononcés contre GNL avant même le rapport du BAP, notamment. Donc, ils ont vraiment fait un virage et sur le troisième lien, ils étaient ouverts. Ben, ils ont décidé qu'évidemment, ils étaient complètement contre. Tu sais, moi, j'avais parlé avec un élu, tu sais, c'est un exemple, mais qui me disait, bon, on comprend là, que, tu sais, qu'on Dominique veut nous faire prendre un virage progressiste, plus vert, mais en même temps, ben, ils se disent, tu sais, ça va être quoi la chair autour de l'os? Qu'est-ce qu'on va vendre à la population?
Mais tu sais, au mois de mai, là, tu te souviens quand ils avaient annoncé un virage économique, une nouvelle conception économique, où on a même déposé un projet de loi sur les entreprises à mission. Tout ça venait d'un conseiller, Jérôme Lucier, qui, lui, était très, très à gauche. On l'appelait le pion de Québec solidaire au sein des troupes libérales. Eh bien, il est parti, Jérôme Lucier.
Ouais.
Entre autres parce que, justement, il y a des gens qui trouvaient que Dominique Anglade était trop influencée par lui. Et donc, elle a perdu Patrick Derry aussi, qui, bon, était moins marqué à gauche, mais qui appuyait aussi le virage à gauche. J'ai l'impression que il y a déjà une partie du ménage de fait, mais c'est vrai que dans le discours, ça a continué de virer.
Oui, puis tu sais, je regardais des éléments de la résolution cadre. Tu sais, on dit faire du droit à l'environnement et à la protection de la biodiversité un droit fondamental ayant une valeur supralégislative. Ça veut dire que ça pourrait comme supplanter d'autres, oui, d'autres éléments de loi, de décision gouvernementale qui respecteraient pas ça. Tu sais, c'est aller très loin, là.
Ouais.
On parle d'instaurer une analyse d'impact climatique pour toutes les décisions du Conseil des ministres. Tu sais, c'est très Québec solidaire, là, en termes de...
Mais en même temps, avec les dernières informations du GIEC, là, dernières informations sur notre climat qui est perturbé, on dirait qu'il y a une plus grande urgence,
oui,
à travers tous les partis. Donc, oui, ceux qui étaient déjà, qui voulaient déjà virer un peu plus vert, le sont encore plus vert.
C'est ça, t'as pas tort. C'est juste que je me mets à la place de... Moi, je pense, là, je nommerai pas de nom, mais tu sais, je pense à des anciens élus libéraux.
Ben moi, je nommerais Serge Simard, l'ancien ministre qui était scandalisé que le Parti libéral, tu sais, décide de rejeter GNL Québec.
C'est ça. Lui, il a fait une sortie publique. Mais tu sais, moi, j'ai parlé à d'autres, puis je sais que ça correspond pas à leur vision. Tu sais,
c'est
beaucoup de... Comme j'utilisais l'expression libéraux pur jus, là, tu sais, des gens très rouges, mais tu sais, pour qui... l'aspect économique des choses est plus important d'abord, et puis là ils disent ben là comme tout envoyé ça par-dessus bord.
En tout cas, on va avoir de quoi jaser lundi, hein?
Exact, ça va être vraiment le fun de voir comment ça passe finalement durant le week-end.
Où ça casse. Écoute, c'est vendredi, et le vendredi, tu remets deux prix, le prix tarte au sucre et le prix steak. Commençons par le steak.
Alors, le steak pour Éric Girard, parce qu'honnêtement, dans le cadre de la mise à jour économique, il y avait pas mal que de bonnes nouvelles. La relance économique au Québec est très bonne, tellement que ça lui donne plus de moyens. Avec les moyens, il a procédé, comme il l'a fait depuis le début, une approche équilibrée, c'est-à-dire on garde quand même l'objectif de terminer avec les déficits en 2027-2028, parce qu'on veut pas comme y aller trop abrupt. On a choisi de prendre un peu de la marge de manœuvre pour redonner aux gens qui gagnent moins cher et qui sont des victimes, je dirais, davantage de la hausse du coût de la vie, des produits de consommation. C'est ce que les partis d'opposition réclamaient. Donc, je trouve qu'il a coché beaucoup de cases. Tout était positif. Et donc, c'est encore une fois plutôt équilibré. Je trouve quand même que le gouvernement Legault dépense beaucoup, c'est plus qu'on aurait peut-être cru avant son élection ou au moment de son élection, mais avec toujours une approche quand même plutôt équilibrée. Il fait des prévisions aussi qui sont des fois un peu pessimistes, mais tu sais, j'aime mieux ça que le contraire. Comme on a vu dans le passé, ça nous donne quand même un peu un coussin. On se dit, ben regarde, si c'est vraiment aussi pire qu'on pense, on l'aura prévu.
C'est la technique Letao.
Oui, c'est ça, qui avait été effectivement là un peu le
très conservateur au fond.
La tradition a commencé avec M. Letao et M. Girard va un peu dans ce sens-là et on se retrouve souvent avec un portrait qui est mieux qu'on pensait, puis ben ça permet de naviguer davantage en aidant aussi ceux qui ont le plus besoin. Donc écoute, je trouve et la mesure concernant l'argent pour pour diriger dans le fond des jeunes vers des programmes où on a besoin de personnes avec des bourses très généreuses.
Ouais.
Ça me paraît aussi logique. Ça peut donner des fruits rapidement dont on a besoin.
Le temps file, Rémi, et j'ai comme besoin de glucides, là. Quel est ton prix? Tarte au sucre.
Allons-y avec le sucré. Donc, Éric Girard aussi.
Parce qu'il y en a deux, Éric Girard, à la CAQ. Tu parles du député de Lac-Saint-Jean ou encore du ministre des Finances?
Non, je parle bel et bien du ministre des Finances. Donc, c'est un deux pour un. Alors, écoute, s'il était Rémi Nadeau, il serait extrêmement heureux parce qu'il aurait à sa table un steak et une tarte au sucre. Donc, la tarte au sucre, toujours le moment sucré. Le moment sucré, on va vous faire entendre donc ce qu'il a déclaré lorsqu'un journaliste lui a dit « Moi, il me semble que ça tombe bien, hein, des cadeaux aux Québécois à l'approche du rendez-vous électoral. » Et voici ce qu'il a dit.
Écoutons-le.
C'est une bonne question.
Merci.
On est en pandémie. On sort de la pire récession mondiale. On a des défis des finances publiques. Honnêtement, moi, là, j'ai pas pensé à l'élection une fois dans les 12 derniers mois, là. Alors, moi, mon travail, c'est de m'assurer qu'on a un cadre financier solide qui inspire la confiance, que les gens comprennent que les impôts n'augmenteront pas Si un jour on réussit à revenir à l'équilibre budgétaire comme prévu, on aimerait réduire le fardeau fiscal. Le Québec est un crédit 2A. On va maintenir les taux d'emprunt pour tous les Québécois le plus bas possible.
Il n'y a pas grand monde qui le croit, Rémi, mais il a l'air sincère.
Wow, hein? C'est parce qu'en plus, M. Girard a parfois une certaine candeur.
C'est ça.
Mais tu sais, on ne peut pas imaginer, ça se peut pas. C'est impossible qu'il n'y ait pas pensé à l'élection. Ça se peut juste pas. Alors, c'est sûr qu'on est, comme tous tombés en bas de nos chaises hier lorsqu'il a fait cette déclaration.
C'est ce qui fait qu'il reçoit le prix Tarte au sucre. En terminant, Rémi, grève générale illimitée dans les garderies et services de garde à partir de la semaine prochaine, rapidement?
Honnêtement, Antoine, j'arrive pas à y croire parce que bon, la CSN, ils ont voté massivement aussi pour une grève générale qui pourrait débuter donc la semaine prochaine. La CSQ avait tenu un vote sans dire à partir de quelle date il y aurait grève générale illimitée. Mais tu sais, il faut se dire que moi, je crois à la nécessité de rattrapage salarial pour les éducatrices, mais c'est là, c'est sur la table, c'est plus de 20%. Et là, on dirait qu'elle garde la ligne dure par solidarité, par exemple, pour les cuisiniers ou les gens qui sont responsables de l'entretien. Mais le rattrapage, on le veut pour les éducatrices. On a besoin d'éducatrices. On a besoin que les CPE puissent en embaucher davantage, que ce soit plus alléchant. Mais je pense pas. Tu sais, je vois mal le gouvernement plier sur l'aspect tu sais, qu'on augmente aussi autant d'autres catégories d'employés parce que là, ça va faire comme boule de neige dans toutes les sphères du secteur public. Et c'est pas ça qu'il veut, le gouvernement. Le gouvernement veut des augmentations différenciées pour les personnes dont on a le plus besoin. Donc, tu sais, moi, je pense que elles ont adopté la ligne dure. Elles sentent que la population est derrière elles, les éducatrices. Mais pour le reste, je pense qu'on va sûrement arriver à trouver un terrain d'entente. Et honnêtement, moi, je reste positif. Je serais surpris qu'on arrive à une grève générale limitée.
Merci beaucoup, Rémi. On verra si ta prédiction s'avère. Sinon, il y aura peut-être une loi spéciale.
Voilà.
On se voit en fin de semaine, puis on se reparle lundi ici à La Haut sur la colline.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du bureau politique nous propose un retour sur la semaine, mais à partir des dossiers qui l'ont occupé, qui l'ont passionné. Aujourd'hui, c'est au tour de...
Go! Go!
Mais bonjour Marc-André Gagnon.
Bonjour Antoine, bon vendredi fou. Hein?
Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Il est à la maison parce qu'il a un peu mal à la gorge.
Oui, malheureusement, j'ai une petite toux. J'ai passé un test COVID hier. Ça s'est bien passé, très rapide d'ailleurs, par gargarisme. Ça fait pas mal pantoute. Puis le résultat a été négatif, mais je voulais pas te donner mes microbes.
Oui, je comprends. Il y a d'autres microbes, on l'a presque oublié. Et justement, on va commencer par parler de vaccination. Tu nous écris ce matin qu'il y a une bonne nouvelle pour les parents pressés, là, ceux qui voudraient devancer la deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 pour leur enfant. Mais
exact.
Mais est-ce qu'il y a un peu d'ombre au tableau?
En tout cas, il semble y avoir de la friture sur la ligne, puisque, bon, pour te raconter un peu l'histoire, il y a une porte-parole quand même officielle là, du ministère de la Santé qui, en réponse aux questions de notre bureau parlementaire, parce qu'on avait beaucoup de courriels aussi de parents qui se posaient des questions et qui nous a confirmé que si un parent demande un rendez-vous plus rapproché pour la deuxième dose de son enfant, que cette demande-là serait acceptée. Et puis là, je cite la porte-parole, le parent peut aussi aller lui-même sur Clic Santé et devancer le rendez-vous. Donc ça, c'est ce qu'une porte-parole du ministère de la Santé nous avait confirmé.
C'était la bonne nouvelle.
C'était la bonne nouvelle. Pour résumer la situation, le comité d'immunisation du Québec recommande un intervalle minimum de 8 semaines entre les deux doses de vaccin, mais le fabricant du vaccin, lui, suggère donc un d'espacer les deux doses d'au moins 3 semaines. Et ça, c'est quand même considéré comme étant l'intervalle minimum requis. Et c'est possible donc d'obtenir une deuxième dose pour son enfant tant que cet espace-là de 3 semaines est respecté. Mais là, donc, mon texte est publié dans le journal ce matin. Y a des parents pour qui la deuxième dose, 8 semaines plus tard, c'était un enjeu. Je peux te donner des exemples. Un parent d'un jeune hockeyeur qui est né en 2010, donc qui a 11 ans, mais qui veut jouer au tournoi international de hockey Pee-wee de Québec au mois de février. Ben, si la deuxième dose est prévue 8 semaines plus tard, ça nous amène presque aux dates du déroulement du tournoi. Donc, c'est un enjeu de pouvoir devancer la deuxième dose.
Ben oui.
Donc, c'était facilitant pour le parent. Même chose pour le parent qui aimerait planifier un voyage avec un enfant qui est âgé de 11 ans, mais qui aura 12 ans au moment du départ. Ben là, comme la preuve vaccinale est requise pour voyager par avion ou par train au Canada, puis à l'extérieur du pays, c'est un enjeu. Donc, tout ça pour dire que c'était une bonne nouvelle. Mais là, semble-t-il qu'il y a beaucoup de parents qui ont de la difficulté, qui essuient un refus lorsqu'ils essaient de devancer la deuxième dose. Ce qu'on m'explique au cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, c'est que la priorité, pour l'instant, elle est vraiment mise sur les premières doses de vaccins qui sont données aux enfants de 5 à 11 ans. Donc, ma compréhension, c'est qu'il y aura des ajustements à apporter là, pour que la directive soit comprise partout à travers le réseau. Là.
Il y a eu une conférence de presse importante mardi dernier. Tu y étais. Est-ce que cette conférence de presse-là visait à faire diversion? Parce que mardi, c'était aussi le dépôt du rapport par la protectrice du citoyen d'un rapport accablant sur les CHSLD, sur la première vague dans les CHSLD.
Bien, c'est clair que c'était une journée très chargée. Je sais que dans l'entourage du premier ministre, on a hésité à choisir le moment de la journée où on ferait cette annonce-là, mais il reste que dans la séquence logique des choses, Santé Canada a donné le feu vert pour le vaccin de Pfizer en dose pédiatrique aux enfants de 5 à 11 ans vendredi. Donc, lundi, on en était encore à finaliser les derniers détails donc de l'opération de vaccination des enfants au Québec. Et finalement, on a décidé de la faire mardi à 17h, aussi en se disant d'abord que la journée serait très chargée avant ça, mais qu'à 17h, il y aurait peut-être davantage de parents à l'écoute lorsque le point de presse aurait lieu. Parce que la collaboration des parents, l'adhésion plutôt, je devrais dire, des parents pour la vaccination des 5 à 11 ans, elle est essentielle. Pourquoi? Ben parce que c'est eux qui doivent donner leur autorisation pour que leur enfant soit vacciné.
Mais est-ce qu'il y avait volonté d'écraser la nouvelle, cette mauvaise nouvelle là, du rapport de la protectrice du citoyen?
Bien, c'est certain que les questions lors du point de presse ont porté surtout sur ce fameux rapport dévastateur. Les gens sont en droit de se demander si c'était pour écraser la nouvelle qu'on a attendue jusqu'à ce moment-là pour faire l'annonce du plan de vaccination pour les 5 à 11 ans. En même temps, le plan de cette campagne de vaccination-là pour les enfants a été très attendu aussi.
Tu as amené le premier ministre quand même à revenir sur une de ses déclarations?
Ouais, il nous a fait pratiquement un mea culpa parce que la semaine dernière, François Legault nous disait que si 80% des enfants de 5 à 11 ans étaient vaccinés, ou plutôt à partir du moment où 80% de cette clientèle cible-là sera vaccinée, qu'il sera possible d'envisager la levée de la plupart des mesures sanitaires au Québec, y compris de l'urgence sanitaire. Et on peut l'entendre, je lui ai posé la question et il a reculé, il a vraiment abaissé les attentes.
On l'écoute.
Je sais que la semaine passée, là, j'ai dit, c'est sûr que si on vaccine 80% des enfants, là, on va pouvoir enlever les mesures. J'ai dit ça, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Ce qu'on sait, c'est que les taux de vaccination vont être moins élevés chez les 5-11 ans. Pourquoi? Parce que on a une situation où il y a des parents, avec raison, qui sont inquiets.
Donc, moi, ce que je me demande, par contre, en entendant cet extrait-là, Antoine, c'est est-ce qu'à trop baisser les attentes, est-ce que François Legault est en train, d'une certaine façon, de décourager des parents qui hésitent à faire vacciner leur enfant? Parce que, d'une certaine façon, François Legault aurait pu profiter de ce moment-là pour, justement, vraiment encourager très fortement les parents à les faire vacciner leur enfant de 5 à 11 ans, parce que là, on sait qu'il y a les festivités du temps des fêtes qui s'en viennent. Ils ont tellement peur de faire trop pression sur les parents qu'ils ont été très, très prudents mardi. Bien hâte de voir quel sera le taux de couverture vaccinale chez les enfants de 5 à 11 ans. Chez les 12 à 17 ans, c'était très élevé. Et là, M. Legault donc, a donc reculé sur l'espèce d'objectif de 80 % donc, très hâte de voir où on va se situer, là.
Marc-André, tu as deux grands dossiers fétiches. Tu as les traversiers, si j'aime beaucoup quand tu écris sur les traversiers, et le troisième lien, évidemment.
Puis là, on n'a pas parlé du tramway, mais je touche à tout ce qui touche
Oui, tu es un homme de transport.
Je touche à tous les dossiers, effectivement, qui concernent le transport. Donc, oui, le ministre Bonnardel qui a sorti sa plume cette semaine pour répondre au maire l'ex-maire maintenant, Régis Labeaume, mais sans le nommer. Il s'est lancé dans une nouvelle tentative de verdissement de son projet de tunnel et c'est pas la première fois. Alors, je te raconte. En début de mandat, François Legault avait évoqué l'idée d'enfouir les lignes à haute tension qui passent par-dessus l'île d'Orléans dans le tunnel, parce que le tunnel à l'époque, il devait passer sous le fleuve, dans le secteur est de Québec, à la pointe de l'île d'Orléans. Et en passant, on parlait déjà d'une première mondiale à cette époque-là, parce que des lignes à haute tension enfouies dans un aussi long tunnel, ça n'existe pas nulle part. Puis là, récemment, il faut dire qu'entre-temps, le projet de tunnel a changé d'endroit. Maintenant, ce qui est projeté, c'est qu'il relie Lévis à Québec de centre-ville à centre-ville.
Juste pour revenir sur les fils enfouis, là, il y a quand même, entre Grondines et Lobinière, un troisième lien, c'est-à-dire un tunnel qui est uniquement pour les fils à haute tension, justement pour transporter de l'électricité. Hein? C'est Hydro-Québec qui a construit ça au début des années 90. Alors là, c'était possible d'enfouir des fils à haute tension.
Là, c'était possible, mais c'est pas le même type de câble qui passe sous le fleuve.
Okay.
C'est pas la même capacité. Donc, je me souviens pas du voltage ou du kilovoltage qu'il y a dans les lignes qui passent par-dessus l'île d'Orléans, qui traverse le fleuve de façon aérienne.
Mais c'est du gros calibre.
C'est du gros calibre et ça aurait été une première mondiale, mais là, évidemment, c'est plus un enjeu de débat puisque le troisième lien ne doit plus passer au même endroit. Donc, plus récemment, Jonathan Julien et François Bonnardel, les deux ministres, dans une entrevue qu'ils nous ont accordée au journal, là, ils ont fait valoir que peu de temps après l'inauguration prévue du tunnel, en 2031, tout ce qui va circuler dans le tunnel quelques années plus tard sera vert parce que la vente de véhicules électriques sera interdite à compter de 2035. Alors ça, c'était la deuxième tentative de verdissement du troisième lien. Puis là, dans sa lettre ouverte cette semaine, le ministre Bonnardel a insisté sur le fait que la construction du troisième lien sera carboneutre. Et là, les partis d'opposition, puis certains chroniqueurs de Montréal n'ont pas tardé à ridiculiser
et
sa
même
promesse.
De Québec, je me suis amusé à me moquer de ça.
J'ai lu ça. la question qu'on s'est posée, c'est combien d'arbres faudra-t-il planter pour rendre sa construction carboneutre? Alors, ne reculant devant rien, c'est ce que notre collègue Geneviève Lajoie a tenté de savoir aux portes du Conseil des ministres, où il faisait très froid d'ailleurs, et on a un extrait sonore.
Combien ça va prendre d'arbres pour compenser la construction du tunnel?
On ne peut pas identifier puis vous donner, quantifier le nombre d'arbres que ça va prendre pour assurer la carboneutralité, sauf que ce n'est pas un terme qu'on vient d'inventer pour contrer les oppositions. La carboneutralité, on le fait pour un grand projet à Montréal qui est Turcot. Un projet qui a coûté presque,
où, les arbres de Turcot?
Presque 4 milliards de dollars. Ben, c'est ça. ils sont là. Ils sont là,
sérieusement, ils ont été plantés.
Même chose pour le pont. Il y a la violette qui va être carboneuse.
Il y en a combien pour Turcot?
Je n'ai pas les chiffres. J'ai pas les chiffres exacts. Mais le projet Turcot qui a coûté près de 4 milliards est carboneux. Donc, c'est un projet qui est important, celui du tunnel Québec-Lévis, qui va respecter ses règles de carboneutralité. Puis c'est ce qu'on met en place au ministère pour les projets de 100 millions de dollars et plus. Là.
Alors, j'ai fait mes recherches sur ce point-là, mon cher Antoine. J'ai retrouvé dans un communiqué qui est daté d'il y a un an, à peu près le 19 octobre 2020, qui avait été diffusé pour souligner la fin du chantier Turcot. On nous disait que le projet Turcot étant carboneutre, un important effort de verdissement a été réalisé. À terme, ce sont 9000 arbres et 61 000 arbustes vivaces, graminées et plantes grimpantes qui seront plantées. Alors ça, c'est ce qui est prévu pour Turcot. Je ne sais pas si tous ces arbres et arbustes-là ont été plantés, mais ça peut nous donner quand même une idée de ce que ça pourrait représenter pour le troisième lien. Donc forcément, des milliers d'arbres. Tout un défi. Là, il y a une étude qui est en cours pour évaluer les impacts sur l'environnement qu'aura la construction du tunnel de Québec-Lévis, qui, je vous le rappelle, selon ce qui est projeté actuellement, devrait être d'une longueur d'environ 8,3 km. Un monotube avec un diamètre de 19,4 mètres, ce qui en fait le plus gros tunnel au monde jusqu'à présent. Donc, c'est ce qui complexifie la tâche du ministre des Transports, François Bonnardel. Les études sont encore en cours. Il a peu de réponses à nous donner. Et je pense que c'est là qu'est tout le problème dans le dossier du troisième lien. C'est un engagement fort de la coalition Avenir Québec. Et ça fait déjà 3 ans qu'on entend le ministre François Bonnardel nous répéter les réponses, vous les aurez en temps et lieu, les études, vous les verrez en temps et lieu. Mais là, il y a une échéance électorale qui s'amène. On est à un an des élections générales et les opposants au projet de troisième lien se font de plus en plus entendre, parlent de plus en plus fort. Québec solidaire, notamment, qui a enfourché ce cheval de bataille-là, qui s'est lancé dans une campagne de publicité là, sur des panneaux aux abords des routes de Québec en militant donc contre le projet. Le ministre François Bonnardel est condamné à défendre son projet et jusqu'à maintenant, à l'évidence même, il a peu de données à fournir, à nous présenter pour défendre son projet, dont le concept nous a été dévoilé, je vous le rappelle, en mai dernier. Ouais. Et lorsqu'on a eu le ministre en entrevue récemment au journal, on lui a demandé, avant les prochaines élections générales, est-ce que vous allez faire le point sur l'état d'avancement des études? Parce que Véronique Tremblay, sous le gouvernement libéral précédent, qu'on appelait la ministre du troisième lien, donc elle était ministre déléguée au transport, était chargée plus particulièrement de ce dossier-là. Au mois d'août, donc quelques semaines avant le début officiel de la campagne électorale, avait organisé une grande conférence de presse-spectacle à l'Anglicane de Lévis et nous avait présenté donc là où le ministère en était dans la réalisation des études qui étaient en cours. On a demandé à François Bonnardel s'il s'engageait à faire la même chose et il n'a pas voulu aller jusque-là. Mais j'ai l'impression qu'il n'aura pas le choix. Comme je le disais, il est condamné à défendre son projet et il va devoir travailler plus fort s'il veut éviter de voir les appuis à son projet fondre comme neige au soleil. Parce que de dire ben c'est un projet qui est souhaité par une majorité de la population, c'est peut-être pas suffisant comme argument pour convaincre les gens. Et surtout, Québec solidaire, c'est pas pour rien qu'ils en font un enjeu national. Mmh. C'est que le troisième lien, vu son ampleur, son envergure, devient un projet à intérêt national parce que, ben, on parle d'un budget de 6 à 10 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et on entend de plus en plus de gens dire, il me semble que c'est de l'argent qu'on pourrait investir sur nos écoles, dans nos soins de santé et tout ça. Le gouvernement nous dit, c'est possible d'investir un peu partout et de continuer à faire des projets routiers. On n'a pas fini d'en entendre parler et on le voit, là, ça divise quand même la population.
Tu dis que le ministre Bonnardel est un peu condamné à défendre son projet. Il va avoir de l'aide, là?
Exactement. Alors, si on potine un peu, tout récemment, en fait, cette semaine, il y a Jean-François Del Tortio, qui est un collaborateur de longue date de la CAQ et de François Legault, qui était jusqu'à tout récemment au cabinet du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui vient d'être nommé comme directeur des communications et conseiller stratégique donc au cabinet du ministre des Transports, François Bonnardel. Dans un mauvais français, on dirait que c'est un peu le fixeur de la CAQ. Donc,
c'est un pompier.
Un pompier.
Un pompier des communications.
Exact. Donc, qui a commencé le mandat avec Geneviève Guilbeault, qui est d'aller donner un coup de main à Jean-François Roberge et qui est maintenant au cabinet de François Bonnardel. Et à ça, on ajoute un ancien conseiller politique de Bernard Drainville, qui a déjà été un attaché politique du Parti québécois pour la région de la capitale nationale, Brian Gelina, qui depuis deux mois maintenant est conseiller stratégique et porte-parole officiel du réseau express de la capitale au ministère des Transports. Alors, des ressources fraîches qui ont été envoyées en soutien au ministre Bonnardel.
Merci beaucoup, Marc-André Gagnon, et prompt rétablissement. Petit mal de gorge, là, il faut que ça finisse, oui. Ça-là.
Merci.
Bonne fin de semaine. Et c'est tout pour La Haut sur la colline pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à lundi. Cube Radio.